Famille, justice, enfance.
Bonjour et bienvenue dans Famille, justice, enfance sur LRP 102.3 avec un nouveau direct depuis Périgueux. Famille, justice, enfance, l'émission sur la famille, la justice et la protection de l'enfance. Donc dans ce nouveau direct aujourd'hui consacré encore une fois à nos problématiques et la spécialisation que nous avons dans notre environnement, nous recevons aujourd'hui Morgane Vincendé. Alors Morgane Vincendé, études de psychologie, coach en entreprise, gros parcours en professionnel, en RH et aussi implication bénévole en accompagnement de l'enfance. Morgane fait partie des candidates de la liste aux européennes Défendre les enfants. Morgane, es-tu avec nous ?
Oui, bonsoir Stéphane, bonsoir
Morgane, merci beaucoup d'être venu nous voir comme ceci sur RLP. Alors déjà, je t'ai présenté un tout petit peu, mais est-ce que tu pourrais, déjà pour qu'on sache d'où tu parles, dis-nous qui tu es, qu'est-ce qui t'a amené à faire tout ceci et à être Morgane Vincendé aujourd'hui en fait. Comment devient-on Morgane ?
Alors, comme tu l'as dit, je suis consultante en psychologie, coaching, RH, management. Je dirais que la partie psychologique, donc je l'intègre dans mes interventions, que ce soit en RH, en management et en coaching. Sur la psychologie, il y a différents courants. C'est ce qui va faire qu'on va entendre différentes positions en psychologie, que ce soit psychanalytique, analyste ou autre. Pour ma part, j'ai plutôt une approche, je dirais, plutôt cognitive, qui va dans le sens du fonctionnement des entreprises, humaniste et comportementale. Je suis également bénévole dans une association qui s'appelle Donner la main à d'autrui, donc dont le président est Jean-Marc Roffa. Cette association intervient pour les sans-abri, et puis également sur l'insertion sociale, donc l'insertion professionnelle, et j'en profite pour passer du moins un message. La difficulté qu'on rencontre, c'est qu'on a affaire à des gens qui se retrouvent à l'extérieur pour différentes raisons, et que le but, c'est de pouvoir les accompagner pour s'insérer socialement, et on rencontre la problématique où on a des personnes qui auraient besoin d'une prise en charge en termes institutionnels ou en termes psychologiques. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'il y a une grande carence, on a une énorme carence, sur l'accompagnement psychologique ou la prise en charge.
Alors, si je m'abuse, au niveau études, tu es passé par un master 2 de psychologie.
Alors, au niveau études, j'ai fait des études en psychologie. Oui. Ensuite, j'ai fait une formation, j'ai fait une spécialisation de l'enfant, du comportemental.
D'accord.
Donc, j'ai pas une approche, j'ai pas un travail clinique.
Non, mais tu es passé par le master, donc tu as le bagage théorique de psychologue. On en a reçu un certain nombre ici. C'est quand même 5 années.
Psychopathologie, tout à fait.
Et tu as choisi la psychopathologie, c'est ça, en fait?
Non, je suis formée à la psychopathologie, à la psychanalyse, puisque ça fait partie de nos études. D'accord. Ensuite, l'orientation, elle se fait en fonction des domaines de compétences et puis là où on souhaite travailler. Et pour ma part, cette psychologie, je l'intègre dans différents domaines, qui sont plus des domaines, je dirais, sur des approches professionnelles.
D'accord.
Ou des approches individuelles dans l'accompagnement en entreprise. Donc, je donne un exemple. Par exemple, en entreprise RH, lorsque j'interviens, il peut m'arriver d'intervenir pour faire un audit. Ça peut être un audit social, un audit RH. Donc, ça demande des compétences d'identification du besoin, d'analyse du besoin et de mettre en place, je dirais, des solutions adaptées.
Oui.
Donc, c'est vraiment une approche. J'ai un parcours qui est plutôt atypique et voilà, je fais partie des personnes qui aiment toucher un petit peu à tout et vraiment de prendre le global. Par exemple, en termes techniques, et ça, tu le sais, tu as eu un invité, tu évoquais ce qu'on appelle la communication non-violente, PNL. Donc, il y a des personnes qui vont l'utiliser vraiment en matière. Moi, je vais l'utiliser plutôt en outil. C'est que j'ai créé mes propres outils.
Après, je t'embête plus. C'est juste pour ça. On a eu tellement de psychologues ici qui étaient spécialisés dans autre chose que, je veux dire, l'entreprise de manière générale. Ça nous intéresse. Hein. Donc, en études de psychologie, en dernière année, il y a plusieurs choix. Donc, ça a changé à l'époque du DEA, maintenant aujourd'hui au niveau du Master 2. Quelle est la spécialisation que tu as eue, toi, en dernière année de Master, avant d'aller vers l'entreprise ?
Développement de l'enfant.
C'est ça.
Donc j'ai travaillé plusieurs années avec les enfants.
Et après, tu as travaillé avec les enfants. Et c'est ensuite que tu es allé faire du coaching et faire, effectivement, j'ai vu que tu avais fait des agences de ressources humaines, de recrutement, des bilans d'orientation. Et là, maintenant, tu es consultante. D'accord. OK. Donc, c'est intéressant parce que tu as la base théorique et tu as aussi une certaine pratique et tu as une visibilité, une vision, on va dire, orientée, management et entreprise en plus de cela. C'est ça ?
Tout à fait.
D'accord. Très bien.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
enfants.
Bah, c'est parfait. Écoute, maintenant que nous savons qui tu es, nous allons pouvoir aborder le thème d'aujourd'hui qui est le harcèlement en milieu scolaire. Alors déjà, le harcèlement en milieu scolaire, c'est un bien grand mot. On entend un petit peu tout et n'importe quoi. Oui. Beaucoup de choses sont connotées par rapport à ça. Donc dis-nous, explique-nous, le harcèlement en milieu scolaire, qu'est-ce que c'est? Quelle est sa véritable définition? De quoi parle-t-on?
Alors avant de définir le harcèlement scolaire, je voudrais évoquer le fait que le harcèlement est puni par la loi. Voilà, le harcèlement est un délit. Il y a une modification en 2013. Et pourquoi je voulais l'évoquer? Puisqu'il y a une modification, du moins il y a eu un rajout qui s'est fait, qui est récent, en mars 2022, où il y a obligation d'alerter le procureur pour tout harcèlement avéré. Donc j'ai essayé de trouver un peu plus d'informations sur cette partie, parce que j'ai beaucoup d'échos, puisque j'accompagne aussi, je m'intéresse à tout ce qui est dysfonctionnement sur les placements, et j'ai eu beaucoup d'échos où il y a eu des enfants pour lesquels il y a eu une intervention de la protection d'enfance suite à du harcèlement. Et effectivement, en mars 2022, il y a eu un rajout du fait où il y a une obligation d'alerter le procureur pour tout harcèlement. Donc, c'est pas clairement défini puisque ça parle pas du harceleur proprement dit ou de l'harcelé. Donc, je pense que les deux sont pris en compte, ce qui convient, je dirais, ce qui correspond à ce qu'on appelle une IP, une information préoccupante, et qui forcément va ouvrir la porte à d'autres acteurs et qui apporte vers la protection de l'enfance.
D'accord.
Voilà, je voulais préciser ce point par rapport à la loi. En termes d'harcèlement, ce qu'on va considérer harcèlement, ce sont des actes répétés. Voilà. En milieu scolaire, dans le milieu scolaire, ce sont des actes répétés et des actes qui vont être physiques, qui vont être psychologiques, avec l'intention de nuire.
D'accord.
Est-ce que tu souhaites que je te donne un petit peu les chiffres pour voir l'évolution?
Oui, c'est important parce qu'on en parle beaucoup, mais en fait, de quoi parle-t-on?
Oui, j'avais noté des chiffres, et c'est les chiffres que j'avais en main, je les avais sur 2011-2013, donc par l'UNICEF. Mmh. Aujourd'hui, j'ai récupéré des chiffres qui sont récents, puisque c'est des chiffres qui datent de février, d'après Nicole Belloubet, donc la ministre de l'Éducation, qui date de février 2024. Donc on est sur quelque chose de récent. Entre les chiffres que j'ai de 2011 à 2013, on a exactement les mêmes pourcentages. Alors, on a des pourcentages sur des classes de primaire, mais on commence sur des CE2, on était à 5%, on n'a pas évolué dans le bon sens puisqu'on n'est pas descendu. Sur le collège, c'était 7%, aujourd'hui on nous annonce 6%. Et sur le lycée, on est quasiment à la même chose, on est monté puisque c'était 3 et on est passé à 5. Donc, il n'y a pas eu de baisse. L'évolution, elle doit se faire dans l'autre sens. Ça veut dire que en 10 ans, ça a pas baissé. C'est même dramatique parce que le résultat a augmenté, mais il a augmenté sur la situation à risque. On appelle la situation à risque, ça va être tous les harcèlements qui sont considérés modérés. Donc la situation, elle a pas évolué dans le bon sens, elle est de plus en plus dramatique parce que au-delà du harcèlement, il y a la violence qui s'intègre. Donc, je tenais à communiquer ces chiffres qui correspondent à plus d'un élève par classe.
Alors, ce qui est intéressant, ce qui est important aussi de préciser, c'est qu'on en a beaucoup parlé durant 10 ans. Est-ce que les gens ne vont pas aussi peut-être... est-ce que les signalements sont faits de la même manière aujourd'hui qu'il y a 10 ans, ou est-ce que l'environnement scolaire n'est pas plus sensible à écrire et à rapporter certains événements qui avant étaient juste mis sous le tapis?
Est-ce que tu peux me préciser?
Ben, c'est-à-dire, en fait, tu dis qu'en 10 ans, les chiffres n'ont pas évolué, mais le nombre de déclarations n'a pas évolué et resté stable. Mais est-ce qu'il y a 10 ans, on indiquait aussi facilement les problèmes de harcèlement qu'on le faisait aujourd'hui? Peut-être qu'aujourd'hui, on dit plus facilement, on rapporte plus facilement un problème auquel l'environnement scolaire a été sensibilisé qu'il y a 10 ans, parce qu'il y a 10 ans, personne s'en occupait quasiment.
À 10 ans, on a les mêmes chiffres quasiment.
Oui, tout à fait, donc, absolument.
Ce qui veut dire qu'à 10 ans, c'était déjà identifié. Simplement, en 2013, il avait été annoncé par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement qu'ils allaient travailler sur 4 axes. C'était annoncé. Les 4 axes sur lesquels ils devaient travailler, on voit la problématique. Aujourd'hui, ça n'a pas avancé. Mais à mon sens, de ce que je peux observer, on travaille beaucoup sur des moyens. Mais j'entends pas parler de compétences. Et ça, j'y viendrai après, parce que j'entends beaucoup parler de moyens. Donc, c'est ce qui fait que c'est beaucoup plus identifiable aujourd'hui. Et je veux dire, en termes de quantité, il y en a pas moins, puisque ça augmente même en termes de situation à risque.
Non, c'est juste une discussion que j'avais avec Gérard Nérand. Il y a parfois la sensibilisation de l'environnement fait que ça influe sur le niveau de signalisation et de signification. Mais effectivement, j'ai tous eu des cas autour de nous. Le harcèlement scolaire, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts énormes. C'est très bien de sensibiliser les acteurs. Et effectivement, on peut regretter qu'on en ait toujours autant et que l'école soit pour certains autant un lieu de souffrance. D'accord. Ok.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
comment fait-on pour identifier ce qui se passe, un enfant qui est harcelé, parce qu'il ne le dira pas forcément, on ne sait pas forcément qui c'est qu'il fait. Alors, de l'extérieur, lorsqu'on est parent ou lorsqu'on est intervenant en milieu scolaire ou en milieu de gestion de groupe tout bonnement, en activité extrascolaire et autres, comment on fait pour analyser, pour voir ?
Alors, pour l'identifier, donc, c'est de pouvoir identifier déjà les différents harcèlements, puisqu'on a l'harcèlement moral, l'harcèlement physique et l'harcèlement sexuel et le cyberharcèlement, puisqu'aujourd'hui, les réseaux vont contribuer à cet harcèlement, puisqu'on le voit dans le milieu scolaire. L'harcèlement scolaire, surtout quand les enfants sont au collège ou au lycée, c'est que l'harcèlement débute et il est exercé au collège ou au lycée et il perdure par harcèlement qui se produit après par le cyber. Pour les parents, je dirais que la façon de l'identifier, c'est dans le comportement de l'enfant. On va pouvoir l'identifier dans le comportement de l'enfant. Je donnerai des exemples sur les comportements. Ensuite, par rapport aux enseignants et par rapport aux gens qui sont acteurs, c'est de pouvoir l'identifier et d'identifier ce qu'on va appeler l'harceleur, les pères et l'harcelé. Puisque quand il y a des problématiques à l'école, les adultes sont pas présents. Et la difficulté, c'est qu'à un moment, l'enseignant, il se retrouve dans une position qui est un peu délicate, puisqu'il sait pas qui fait quoi.
Bien sûr.
Et c'est là où on va revenir plus tard sur la prévention, je dirais les propositions et la prévention. Tu parlais des signes. Les signes sur ce qui va être physique, on va les repérer par les blessures, par les coups, par des vêtements abîmés, par des cartables abîmés, par des manifestations de stress. L'enfant peut avoir des douleurs somatisées, donc il peut avoir des signes d'alerte sur lesquels le parent, ça peut lui donner des indications. On va reconnaître les troubles comportementaux plus par le repli de soi, le refus de se réveiller le matin. Vous avez des enfants à un moment qui veulent pas aller à l'école et qui trouvent des prétextes. C'est pas des prétextes malheureusement. C'est ils somatisent et réellement ils ont la douleur parce que la somatisation quelque part. Induit cette douleur, ça passe aussi par le changement d'humeur, la somatisation des maux de tête, la défensive, l'agressivité, la dévalorisation, l'absentéisme, et l'évitement aussi. Donc il y a pas mal, la liste est pas exhaustive, il y a pas mal de petits indicateurs qui peuvent alerter le parent, mais qui doivent aussi alerter l'enseignant.
Oui, quand on voit un enfant qui revient à des traces de marqueurs sur le visage ou sur le cartable, ou effectivement on regarde, même si bon, il a son intimité et autres, mais les marques de coups sur les écorchures, et puis tout d'un coup il y a le regard qui devient un peu fuyant et évitant parce qu'il veut pas en parler. Ça, très clairement, ça doit être un signe rouge, ça, tout de suite.
Oui, d'ailleurs, d'où l'importance qu'il puisse avoir une coordination, ce qui se fait de moins en moins, malheureusement. Il faut vraiment qu'il y ait un travail entre les parents et l'école. Il y a eu une rupture de parents et d'enseignants. À mon sens, ce travail est primordial. Il y a vraiment une collaboration des deux. C'est qu'on est rentré dans quelque chose où... Et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas cette possibilité d'un travail en commun qui va permettre d'identifier. Parce que le parent va voir que son enfant ne va pas bien. Il va se dire, bon, il n'est pas bien à l'école, il n'aime pas l'école. Et l'enseignant va voir que l'enfant n'est pas bien. Et puis, elle va se dire, peut-être qu'il n'est pas bien tout simplement à la maison. Et il y a un manque de communication et d'investissement des parents qui est considérable. Mais pour ça, il faut que l'école et l'enseignement puissent ouvrir la porte. Parce que j'entends beaucoup que chacun se plaint.
Il ne va pas se tromper, bien sûr. À ne pas dénoncer les parents et faire une IP sur les parents alors que ça se passe dans l'école. Oui, ce serait dommage, effectivement. Et donc, bien sûr.
Oui. Oui, parce que c'est un manque de communication. La base, quel que soit le sujet, la base est la communication, et la communication est primordiale.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, quel outil on peut donner aux professionnels, j'appelle professionnels, moi, les instituteurs, les enseignants de collège, de lycée, les surveillants, les monos de colonie, les enseignants, les animateurs de sessions sportives ou d'activités de loisirs. Comment on fait lorsqu'on est confronté à ça, lorsqu'on suspecte, pour ne pas être trop intrusif, mais en même temps, surtout, pour ne pas passer à côté de quelque chose de grave, quels outils on peut leur donner ? Comment on fait ?
Donc là, on va arriver plutôt sur les préconisations et les préventions. C'est intéressant que tu parles de ça, parce que j'ai récupéré quelques informations qui étaient communiquées par la ministre de l'Éducation et dans les projets qu'elle peut proposer. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est une augmentation de moyens. Et à mon sens, dans les moyens, il va falloir aussi s'appuyer sur les compétences. On parle beaucoup de moyens, on parle pas de compétences. Je vais vous dire pourquoi j'évoque cette partie-là. Puisque j'ai pu voir que, donc, il y a eu des moyens qui ont été donnés et apparemment, il y a une expérimentation qui se porte depuis la rentrée 2024 pour expérimenter des cours d'empathie. Alors moi, quand j'entends ça, je dirais que ça me frise les cheveux, ils sont déjà bouclés. Mais comme si l'empathie pouvait s'injecter. Non, il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas de vaccin par rapport à l'empathie. Et c'est là où on va venir sur la base qui est essentielle et que ça demande vraiment de travailler sur des compétences et de former, que ce soit des animateurs, des éducateurs, des enseignants. L'enfant naît avec l'empathie. L'empathie, elle s'achète pas. L'enfant naît avec l'empathie. Simplement, l'enfant arrive dans un monde où aujourd'hui, on a un monde qui est très violent. Les parents sont confrontés face à des situations qui sont quand même aussi violentes. Et souvent, j'entends un discours qui est porté aux enfants en leur disant, mais tu sais, la vie, elle est pas facile, la vie te fera pas de cadeaux, c'est pas évident. Donc, on prépare un enfant à devoir confronter de la violence. Mais sans outils. C'est que, avant de se préparer et de faire quoi que ce soit, faut être outillé. Vous partez pas à la guerre si vous êtes pas armé. Donc, dans la vie, c'est exactement ça. Donc, effectivement, ça met les parents dans une position où ils vont évoquer avec les enfants en disant, bah, voilà, il va falloir être armé, mais pour être armé, il faut les outils. Donc, à mon sens, l'empathie est très importante et elle est importante non pas de faire des cours d'empathie, puisque l'empathie est la base de l'humanité. L'enfant naît avec. C'est vraiment d'intégrer, en termes, je dirais, scolaires, que ce soit pédagogique, des activités, qui fait que l'enfant va conserver cette empathie. On la nourrit. L'empathie, c'est quoi? L'empathie, c'est simplement, tout bonnement, la capacité de se mettre à la place de l'autre. Et c'est ce qui va faire toute la différence. Un enfant qui est en capacité de se mettre à la place de l'autre sera pas violent. On le vit, voilà, quotidiennement chez les adultes. Et ce qu'on va voir dans le fait d'identifier les acteurs, vous allez avoir l'harcelé, l'harceleur et les pères. Lorsque vous avez des personnes qui sont sensibilisées, parce qu'ils ont pas de profil type, mais il n'empêche que celui qui sera harcelé, il sera harcelé pour différentes raisons.
Père, parce qu'il est dans P-A-I-R, ne nous trompons pas, effectivement, ça veut dire les autres personnes.
Tout à fait, voilà. C'est semblable. Merci pour la précision. Non, mais... Donc, sans avoir de profil type, on va le voir que les enfants qui vont être harcelés, ce seront ou des enfants différents des autres, ou des enfants porteurs d'handicap, ou des enfants d'origine différente. L'enfant qui, lui, à ce profil type, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, d'harceleur, ce sera un enfant qui est beaucoup plus enclin à la manipulation, à la domination. Mais ils ont des similitudes. L'un et l'autre seront dans la dévalorisation. Simplement, il y en a un qui va le vivre en se mettant en retrait et l'autre va vivre la dévalorisation en dévalorisant l'autre. Ensuite, vous avez la position des pères qui est très importante et c'est là où intervient la prévention et le travail à faire en amont parce que quand vous sensibilisez des enfants, vous avez deux possibilités. C'est que ce qu'on appelle les pères qui sont les semblables et qui seront d'autres enfants, c'est qu'ils auront deux positions. C'est où vous avez des enfants qui vont être spectateurs et quand ils vont être spectateurs, ça va leur faire plaisir, ils vont rire. Et là, vous ne faites qu'alimenter celui qui harcèle. Où les enfants sont en capacité, mais pour ça, ça veut dire que les enfants doivent être outillés, de pouvoir interagir et de pouvoir faire quelque chose. Et automatiquement, ça change la donne. Et là, vous calmez la position de l'harceleur. Donc, il y a vraiment des choses à faire qui sont plutôt pédagogiques et qui s'intègrent très tôt. Tout à l'heure, je parlais des chiffres. Quand je communique les chiffres, je suis en incapacité de pouvoir donner des chiffres sur la maternelle, sur le CP, sur le CE1. Ça commence qu'au CM1. Ça pose une problématique puisque le travail doit être fait à la source. Je veux dire, on peut pas laisser des situations comme ça et ensuite dire on fait des cours d'empathie. Il y a quelque chose qui va pas. On n'apprend pas aux gens d'être dans la capacité de se mettre à la place de l'autre puisque on vient au monde avec ça. C'est de nourrir, de conserver.
Alors là, effectivement, je vais faire une petite parenthèse multiculturelle. Les habitués de la radio savent que j'ai vécu sur l'autre continent, que j'ai observé la façon de faire asiatique et qu'effectivement, je te rejoins sur ce point, la gestion des premières années de la toute petite enfance est vraiment améliorable en France. Moi, je me souviens lorsque ma fille était au BIC à Bangkok, British Early Years Center, c'était une école anglophone, anglo-thaï, où elle a commencé, elle avait 2 ans, je crois, elle ne marchait pas encore. Il y avait très clairement une gestion... Enfin, il y a peut-être moins de harcèlement tel qu'on le vit chez les grands parce que les enfants à cet âge-là sont très encadrés et les enseignants sont très très proches des enfants là, qui sont dans la petite enfance. Mais je sais que par exemple, là-bas ça correspond à ce qu'on a nous, la petite section et avant, un geste d'agression, donc une volonté, une velléité, est sanctionné. Elle n'est pas sanctionnée, je veux dire, punitivement, mais elle est... Hop, elle est relevée, attention, on fait pas ça, d'abord que ce soit sur toi, parce que les enfants peuvent être parfois, ils ont des réflexes, tu dis l'enfant naît avec une empathie, mais il faut quand même la révéler, ils peuvent être violents entre eux lorsqu'ils sont petits, mais un enfant à 4 ou 5 ans, par exemple, alors il a un énervement, des normes, regarde, tu fais ça, il va se passer ça sur autrui, et il comprend très vite, c'est là que tu as raison, c'est que naturellement tout de suite, il comprend très très vite, et si tu mets ça dès la petite enfance, il va grandir avec, et on se rend compte d'ailleurs que dans ces civilisations-là, qui sont très différentes de nous, qui sommes des judéo-chrétiens, les occidentaux, occidentaux latins, ils vont porter beaucoup plus d'attention à l'espace de l'autre et ils vont faire beaucoup plus attention à ne pas rendre l'autre inconfortable. C'est civilisationnel, hein, c'est vraiment culturel. Et après, on arrive en France et dans la cour de récréation des écoles primaires, tu as des batailles de cailloux. Très vite, hein, en maternelle, hein, en moyenne section, en grande section. Voilà. Et là, effectivement, si tu te rends compte que oui, la partie apprentissage de qu'est-ce que l'autre, qu'est-ce que ressent l'autre quand je suis ma pulsion primaire, en fait, à l'intérieur, n'est pas du tout la même. Et donc, effectivement, il y a un intérêt à s'occuper de l'enfant en très bas âge. Ce n'est pas uniquement pour le développement cognitif, hein, si on repart sur le Montessori et ce genre de choses. C'est aussi pour le vivre entre soi.
Tout à fait. Et tu le dis très bien, et on le voit parce que on va le voir au niveau du monde culturel, et ça va être notre particularité, c'est que dans ce qui va être mis en place, on est beaucoup dans la répression. Lorsque tu parles des exemples que tu as pu citer, on a affaire à des cultures qui sont plus dans le préventif, hein, puisqu'on va le voir. Hein. Oui. On prend l'Asie, l'Asie est dans une culture, ils vont chez le médecin pour conserver leur santé. Nous, on va chez le médecin quand on est malade.
C'est vrai. Donc c'est là. Quoi qu'il se passe, on explique. C'est vrai, quoi qu'il se passe, on explique. Même lorsque quelqu'un a fait une bêtise et que la police va venir pour le sanctionner parce qu'il a fait quelque chose, il aura droit à sa petite leçon de morale. Mais ça, il aura droit à sa petite leçon explicative. Pourquoi ? C'est pas que pour t'embêter. Non, t'as abîmé un poteau électrique parce que t'es rentré dedans en voiture. Eh ben, tu vas le payer le poteau électrique parce que, et on t'explique ça. Et il y a toujours cette notion d'expliquer. C'est pas la sanction arbitraire. Il y a toujours une explication derrière.
Parce qu'il y a une base. Et que, on le veuille ou pas, à un moment, il va falloir revenir à l'humain puisque notre base est humaine. À moins que demain, on prouve que je suis une extraterrestre. Qu'il y a des fois, je me dis peut-être que je suis une extraterrestre. On doit respecter cette base humaine. Et quand je dis qu'on doit la respecter, c'est que ce qu'on met en place, c'est avec cette base humaine. C'est pour ça que dans certaines cultures, ça fonctionne très bien. Voilà, dans certains pays, il y a des choses où il y aura moins de violence parce qu'on est quand même placé quatrième. Donc voilà, on est quand même une mauvaise élève.
Ce classement quatrième, vas-y, approfondis un peu, qu'est-ce que c'est ?
C'est le classement qui a été donné par rapport aux différents pays d'Europe sur l'harcèlement.
D'accord. On a un classement qui a été effectué en Europe par rapport au nombre de harcèlements par pays et nous sommes quatrième, c'est ça ? D'accord.
Oui. Donc, on est des mauvais élèves. Donc, à nous d'être de bons élèves et pour pouvoir être de bons élèves, la base ne peut pas être occultée. Ouais. Voilà, je veux dire, il y a une base qui est là, cette base ne peut pas être occultée. C'est que, oui, la répression répond à certaines choses, mais il y a aussi à l'éducation, il y a l'éveil, et ça fait partie de tout un programme. Et c'est là où chacun va devoir prendre sa position. Que fait l'école ? Est-ce que l'école éduque ou l'école enseigne ?
Voilà. Tout à fait.
Il y a vraiment un travail à faire en collaboration et il est impératif. C'est pas péjoratif quand je dis que chacun doit rester à sa place. C'est de rester à sa place. Ça permet que chacun utilise ses compétences et que vraiment ça donne cette unité. Vraiment, ça donne cette unité et que les enfants puissent être accompagnés de façon pédagogique. Ils ont une base. On développe cette base.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Nous reste 3 minutes, 3 minutes 30. On va aborder tout de même les conséquences du harcèlement et ce qu'il faut faire lorsqu'on voit quelque chose. Parce qu'on ne va pas rester anodin lorsqu'on est spectateur. On sait qu'un enfant est en danger. Il faut dire qu'un enfant est en danger. Mais abordons un peu les conséquences et le comment agir.
Oui, donc dans les conséquences, on a plusieurs conséquences, puisqu'on a les conséquences de troubles émotionnels. Et il y a des conséquences qu'on va retrouver identiques à l'enfant qui est harcelé et le harceleur. Par exemple, la colère, vous allez la retrouver chez les deux. La dévalorisation, vous allez la retrouver chez les deux. Donc, vous avez des similitudes en termes de conséquences, aussi bien chez l'enfant qui va harceler que l'enfant qui est harceleur. D'accord. Donc, on a des choses en commun. Pour les enfants qui sont victimes, les conséquences sont quand même dramatiques, puisqu'elles passent par la honte, la culpabilité. L'impuissance, par contre, elle est vécue par les deux. L'autodévalorisation est vécue aussi par les deux. Vous avez l'anxiété, les phobies. Ensuite, il y a les troubles qu'on appelle psychosomatiques. Et là, ça donne aussi des indicateurs aux parents. Ça peut donner des indicateurs. Vous avez les troubles digestifs, qu'on appelle aussi l'ostéo-articulation, qui sont des douleurs lombaires, des enfants qui vont se plaindre de douleurs au niveau des membres, l'asthénie. Donc, il y a aussi la paresthésie. C'est des sensations de fourmillement. Ça, j'ai pu le voir. Il y a des enfants qui se plaignaient d'avoir comme des fourmillements dans les jambes, dans les bras. C'est assez localisé. Il y a les palpitations, sentiments d'oppression, les troubles de sommeil. Donc ça peut être aussi, c'est des conséquences, mais ça peut être aussi des indicateurs pour les parents, les enseignants ou autres. Les difficultés d'endormissement, les cauchemars, les troubles alimentaires qui peuvent se manifester ou par de la boulimie ou bien par de l'anorexie. Vous avez aussi les troubles cognitifs, les difficultés de concentration, des troubles de mémoire. Et puis, ce qui va se passer aussi pour les enfants un peu plus âgés, il va avoir un abus de substances actives. Et on le voit beaucoup sur les collégiens, les lycéens. Et là, on le repère aussi bien chez les jeunes qui ont été victimes et puis ceux qui ont agressé, où vous avez une consommation excessive, que ce soit de drogue, de tabac, de médicaments, d'ansiolytiques, des choses comme ça.
Enfin, une compensation dans l'artificiel, ouais. D'accord. Ok, très bien. Bah, écoute, pour conclure, pour qu'on prendra les questions qui sont en ligne, parce que le live continue après sur Facebook, hein, et sur YouTube. D'accord. On dit d'ailleurs aux auditeurs de nous rejoindre, hein, le groupe Facebook Défendre les enfants, vous le trouverez, c'est la liste européenne, le live est en cours. L'émission de radio s'arrête très bientôt, mais on continue ensuite sur Internet et nous prenons les questions des utilisateurs ensuite sur Internet. Bon, Morgane, okay. Merci d'être venue.
Merci à vous.
Bon, et puis effectivement, on dit à tout le monde, à tout de suite sur Internet, je rends le direct et je reviens vers vous.
Famille, justice, enfance.